RFI.
Vous écoutez RFI, les 19h en temps universel, 20h ici à Paris.
Amélie Beaucourt.
Coup d'envoi dans moins d'une heure des barrages retour de Ligue des Champions. Au programme, un Paris-Brest dont nous parlera en début de journal Sofiane Amazian, notre envoyée spéciale au Parc des Princes. Dans ce journal également, la montée des tensions entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Alors que les Américains ont rouvert hier les discussions diplomatiques avec les Russes, une première depuis 3 ans, début de l'invasion en Ukraine. Et puis en France, on s'arrêtera à la cour d'assises spéciale de Paris, où se déroule depuis lundi le procès des geôliers présumés du groupe État islamique. Aujourd'hui, les anciens otages étaient appelés à la barre. Laura Martel nous en parlera à la fin de ce journal.
RFI.
Et du football d'abord, suite et fin des barrages retour de la Ligue des Champions ce mercredi. Le Paris Saint-Germain reçoit ce soir le Stade Brestois. Des Parisiens qui ont fait le travail lors de la manche aller avec 7 victoires sèches, 3 buts à 0. On retrouve tout de suite en direct du Parc des Princes notre envoyé spécial, Sofiane Amazian. Bonsoir Sofiane.
Bonsoir Amélie, bonsoir à tous.
Les Bretons sont condamnés à un authentique exploit s'ils veulent poursuivre l'aventure en Coupe d'Europe.
Oui, un exploit, Amélie, et aussi que les druides du football penchent en faveur du club de Brest qui, on le rappelle, dispute sa toute première campagne de Ligue des Champions. Personne ne les attendait à ce stade de la compétition et pourtant, les joueurs d'Éric Roy sont allés de surprise en surprise. 4 victoires, un match nul, 3 défaites lors de ce tour principal de la Ligue des Champions pour finir à cette 18e place historique qui leur permet de rêver des 8e de finale. Mais cette fois, la marche semble être un poil trop haute tant les Parisiens rugissent en 2025, Amélie, 5 victoires de suite toutes compétitions confondues, 4 succès de rang en Ligue des Champions en marquant à chaque fois plus de 3 buts, mission quasi impossible donc pour Brest qui n'a plus battu Paris depuis 1985, 40 ans que les Bretons souffrent face au club de la capitale et encore plus dernièrement avec notamment ce joueur à suivre ce soir, Ousmane Dembélé, auteur d'un triplé puis d'un doublé contre Brest lors des 2 dernières confrontations. Remonter 3 buts, c'est possible en Ligue des Champions, Amélie, mais en mettre 4 au Parc des Princes, eh bien ça n'est jamais arrivé dans l'histoire.
Eh bien, on croise les doigts pour les Bretons. Alors, coup d'envoi dans une heure. Sofiane, merci et bon match à vous. On vous retrouvera un peu avant, dès 19h40 temps universel, 20h40 ici à Paris, avec dans l'oreille également Cédric de Oliveira au stade Bernabéu à Madrid qui reçoit Manchester City. 2 matchs à suivre en direct sur RFI avec aux manettes Babacar Diarra. Et on l'a appris ce soir, le réalisateur malien Souleymane Cissé s'est éteint ce mercredi à Bamako. Amoureux du 7e art, c'était l'un des pères du cinéma sur le continent africain. Il devait d'ailleurs présider l'un des jurys du prestigieux FESPACO qui se tiendra fin février à Ouagadougou. Souleymane Cissé avait reçu le prix du jury à Cannes en 1987 pour son film Yélène. Il avait 84 ans. La tension s'accroît entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump. Ce mercredi, le président américain a qualifié son homologue ukrainien de « dictateur » qui ferait mieux, je cite, « d'agir vite, sinon il ne lui restera plus de pays ». Le ton monte depuis hier, alors que les chefs de la diplomatie russe et américain s'étaient donné rendez-vous à Riyad, en Arabie Saoudite. Une première rencontre depuis 3 ans pour parler d'Ukraine, sans l'Ukraine. Réunion critiquée par Volodymyr Zelensky. Depuis, le président américain est de plus en plus véhément. Une stratégie de communication, selon Philippe Golub de l'Université américaine de Paris, spécialiste des relations internationales. Il était l'invité de la mi-journée sur RFI.
Les États-Unis veulent aujourd'hui, sous Trump, trouver un modus vivendi, non pas une alliance, mais un modus vivendi avec la Russie de Poutine pour de nombreuses raisons. Une raison étant de pouvoir libérer les capacités américaines pour se concentrer sur la Chine en Asie orientale, objectif beaucoup plus important selon l'administration actuelle et selon les stratèges américains en général d'ailleurs. Et deuxièmement, parce qu'ils considèrent que les coûts de cette guerre pour les États-Unis ont été exorbitants sans contrepartie. Donc on est là à la fois dans du mercantilisme et une politique stratégique qui n'a aucune espèce de considération pour le droit international ou pour les pertes humaines engendrées par cette guerre.
Direction la Turquie à présent, où le patron des patrons, Orhan Turan, a été interpellé et emmené ce mercredi par la police pour être entendu par un tribunal d'Istanbul. Le dirigeant de la puissante confédération patronale TÜSİAD fait l'objet d'une enquête pour avoir émis des critiques contre le système judiciaire. Cette interpellation fait suite à des dizaines d'arrestations ces dernières semaines en Turquie, au sein du monde politique, culturel ou encore de la presse. À Ankara, les précisions d'Anand Lauer.
Au cours d'une réunion le 13 février, le président de la TUSIAD ainsi que le chef de son haut conseil consultatif avaient prononcé des discours critiques sur l'état de l'économie et de la justice turque. Étonnamment critiques de la part de ce syndicat patronal d'ordinaire plutôt prudent, ce que certains lui reprochent parfois. Les deux hommes font désormais l'objet d'une enquête pour diffusion de fausses informations et tentative d'influencer un procès équitable. Ils avaient notamment dénoncé la récente répression visant des dirigeants de l'opposition et des journalistes, faisant le constat d'un pays démoralisé à la confiance ébranlée. Le président de la TUSIAD, Orhan Turan, entendu le premier par un procureur, avait également fustigé la propagation de la corruption, de la fraude et du marché noir, estimant, je cite, qu'il est devenu plus facile de fonder une organisation à but criminel que de fonder une société. Ces discours, signe d'une frustration certaine au sein de la communauté d'affaires turque, n'ont pas du tout plu au pouvoir. Alors qu'Orhan Turan était entendu par la justice, le président Erdogan a qualifié ses propos de provocation ayant largement dépassé les limites. Anne-Laure Ankara, RFI.
Et des nouvelles rassurantes du pape François. Ses analyses de sang montrent une légère amélioration de son état de santé ce mercredi soir. Hospitalisé vendredi dernier pour une pneumonie, sa sortie avait été repoussée de quelques jours en début de semaine. Giorgia Meloni, la chef du gouvernement italien, a d'ailleurs pu lui rendre visite et donne à la presse des nouvelles rassurantes de son état de santé. Elle a dit qu'il était, je cite, « alerte » et qu'il plaisantait. Et en France, direction la Cour d'assises spéciale de Paris, où s'est ouvert depuis lundi le procès des geôliers présumés du groupe État islamique. La parole est ce mercredi aux anciens otages. 5 accusés, dont Medine Mouche, le tueur du musée juif de Bruxelles, sont poursuivis pour leur implication dans la séquestration d'otages occidentaux en Syrie. Après le photographe Édouard Elias, c'est son binôme de terrain et de détention, Didier François, 64 ans aujourd'hui, qui a témoigné de leurs 11 mois passés en détention. C'était entre juin 2013 et avril 2014. Tous deux ont identifié Medine Mouche comme l'un de leurs geôliers, ce qu'il nie. Laura Martel, vous êtes au palais de justice.
Oui, je suis très peu dans le pathos et sans doute trop analytique, prévient d'emblée Didier François, l'expérimenté reporter de guerre qui construit effectivement le récit de sa détention autour de décryptage géopolitique plus que sur les sévices subis. D'un point de vue journalistique, c'était passionnant d'être au cœur du réacteur, voire de l'intérieur, la constitution de cet État islamique que personne n'avait vu venir, et de décrire un système totalitaire qui fonctionne sur la terreur en interne et le terrorisme en externe. Ce qui nous est arrivé n'est qu'une goutte d'eau par rapport à ce qu'ont subi des milliers de Syriens, Irakiens, Kurdes et Yézidis. En tant que reporter, j'ai du mal à ne parler que de mon sort, alors que le projet de vos camarades est un projet esclavagiste et génocidaire, dit-il en se tournant vers Medine Mouche. Un accusé qu'il désigne comme son geôlier, moins à son visage, pourtant aperçu en détention, qu'à son phrasé, son attitude. Celui qu'il appelait « mon petit Didier », les pinces sur les ongles, c'était lui. Je n'ai aucun doute, insiste Didier François, qui laisse quand même entrevoir par bribes l'enfer de la séquestration, ses corps gémissants sur lesquels il devait marcher pour aller aux toilettes dans cet abattoir qui était devenu l'hôpital d'Alep. D'une voix moins assurée, il confie, il y avait ce gamin de 7 ans déguisé en djihadiste qui traînait parfois avec les gardiens. Entendre un mouflé rire sur les hurlements de torture, c'est ça qui a été le plus dur.
Laura Martel en direct du palais de justice de Paris. Merci beaucoup Laura. Un procès que vous suivez pour RFI. Vos comptes rendus d'audience sont à retrouver dans les journaux de RFI et sur RFI.fr. En France toujours, le Conseil constitutionnel a un nouveau président depuis ce mercredi. Richard Ferrand, ancien député macroniste et ancien président de l'Assemblée nationale, a été approuvé de justesse par le Parlement. Sa nomination s'est jouée à une voix, signe des controverses que suscite le personnage. Sa candidature, proposée par le président de la République, a été vivement critiquée à gauche comme à droite, à cause de sa proximité avec Emmanuel Macron, alors que cette fonction suprême, gardien parmi les gardiens de la Constitution, sage parmi les sages, nécessite des gages d'indépendance que de nombreux députés ne reconnaissaient pas chez lui. Et dans l'actualité française également, les premières arrestations dans le cadre d'une affaire judiciaire qui secoue le pays. 3 hommes ont été arrêtés et placés en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur Notre-Dame de Bétharram, cet établissement scolaire privé catholique du sud-ouest du pays, au cœur de plus d'une centaine de plaintes pour violence, agression sexuelle et viol. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information Afrique Soir dans 20 minutes, juste avant cette soirée de Ligue des Champions, retransmise en direct sur RFI. Ça sera dès 20h40 heure de Paris, 19h40 temps universel.